Alors, vous faites bien de souligner l'anniversaire, effectivement, de la formation d'Hacheta Chabi par le grand ayatollah Sistani, qui a joué un rôle prépondérant dans la libération de l'Irak, puisque tout le monde se rappelle de cette offensive de l'État islamique, Daesh, en 2014, où, confronté à cette armée de terroristes, l'armée régulière avait littéralement non seulement fui, mais abandonné des milliards de dollars d'équipements sophistiqués qui avaient ensuite permis à ces groupes terroristes d'occuper des pans entiers de l'Irak, avec leur capitale à Mossoul, ainsi que de la Syrie avec leur capitale à Raqqa. Il avait vraiment fallu attendre l'intervention russe et donc le contrôle de l'espace aérien, en tout cas en Syrie, pour commencer à assister à une coordination des composantes de la résistance, dont les Hachat Chabi font partie intégrale, pour commencer à avoir un reflux de cette engeance, hein, dont on sait qu'elle est financée par les Occidentaux et acheminés dans la région par la Turquie. Donc c'est un anniversaire effectivement important. Dans ce contexte-là, effectivement, vous me demandiez quelles étaient les circonstances de la dissolution des Hachat Chabi. Alors il faut comprendre qu'il y a eu un accord entre les Hachat Chabi et le gouvernement irakien, où les Hachat Chabi sont essentiellement une partie intégrale de l'armée irakienne. Beaucoup de gens ne l'ont pas nécessairement intégré, mais les Hachat Chabi se sont fusionnés dans l'armée irakienne et, ce faisant, sont une émanation de l'État irakien. Donc il ne faut pas trop s'attarder sur cet état de fait, sachant que l'Hachat Chabi veille à la préservation des intérêts souverains de l'Irak, qu'actuellement une guerre, comment dirais-je, secrète a lieu, où les Hachat Chabi sont très sollicités quant à essayer de prévenir toute infiltration sioniste en Irak, au travers du Kurdistan irakien. Que dans ce contexte, les Hachat Chabi, au travers de leurs représentants politiques, directs ou affiliés en tout cas, ont mis l'accent sur le fait que cette situation était intolérable et que le clan Barzani devait se ressaisir, à défaut de quoi l'Irak, et donc au travers des Hachat Chabi, prendrait ses responsabilités. Le même raisonnement s'applique bien sûr quant à le détournement des ressources pétrolières de l'État irakien, bien compris, au travers de, comment dirais-je, d'exploitation de gisements dont les revenus ne sont pas, comment dirais-je, partagés de manière équitable avec l'État irakien. Et encore une fois, ça pose problème parce que quelque part, ça laisse entendre que toutes les sociétés étrangères qui, pour la plupart, sont basées au Kurdistan, participent directement au détournement et donc au vol des ressources pétrolières irakiennes. On apprend également que les Américains sont en train de... Alors peut-être pas déménager l'ambassade à Bagdad, mais en tout cas, il semblerait qu'il y ait un certain type de mobilier qui soit transféré de la capitale irakienne reconnue par les Nations Unies à Erbil, hein. Donc on peut se demander pourquoi cette séquence a lieu maintenant à la lumière des développements que j'ai évoqués. Tout ce qu'on sait, c'est que le Mossad est présent à Erbil, que les Hached le savent, et que dans ce contexte-là, ils jouent leur rôle pleinement et entièrement, et encore une fois, dans le cadre des forces armées de la République d'Irak. C'est très important de garder ça à l'esprit. Ce ne sont pas des gens qui opèrent de manière indépendante et ils s'inscrivent dans l'esprit de la Constitution et des institutions irakiennes. Donc, c'est comme ça qu'il faut le concevoir et que cette idée de déposer les armes, ce n'est pas une dissolution ou déposer les armes, c'est simplement que les Hached, encore une fois, se réclament d'une partie intégrale de l'Irak et que ce faisant, jusqu'à preuve du contraire en tout cas, il n'a aucune raison de penser qu'ils opèrent de manière séparée.